Louise. Quatrième enquête de François Lecamp, détective aveugle. Depuis que j'avais l'esprit occupé, j'étais très heureux à tous égards. Comme je contribuais au budget du ménage, Lucie travaillait moins à l'aiguille et elle pouvait se soigner, ce qui était encore bien nécessaire. J'éprouvais la juste fierté d'un homme qui gagne la vie des siens. Et bien que je doive toujours être dépendant de ma femme pour maintes petites choses, l'indépendance pécuniaire m'était précieuse. Les trois sommes que j'avais reçues comme honoraires, au total 800 francs, ce n'était pas le Pérou, mais nous avions mis cela à la banque comme réserve, et Lucie en éprouvait comme moi de la sécurité. Surtout, ma pauvre femme avait un mari moins sombre, moins ennuyé. J'avais trouvé un genre d'activité mentale qui me faisait les heures plus courtes et, par moments, j'oubliais tout à fait ma cécité. Sur le conseil de Lucie, j'avais écrit à la machine un récit détaillé de mes trois enquêtes. J'avais ensuite transcrit toutes ces pages en braille abrégée afin de pouvoir les relire moi-même avec les doigts. Ensuite, j'imaginais des cas. Je fis des enquêtes fictives et il me semblait que j'aiguisais ainsi mes facultés de déduction. Tout en fignolant mes petits morceaux de bois, car je m'étais mis à faire de la marqueterie incrustée, je voyais défiler dans mon imagination des histoires de bijoux volés, de documents disparus, toutes choses plus nobles que le cas d'un caniche ou d'un billet de loterie. Oui, nous aurions été tous heureux sans le chagrin qu'éprouvait mon frère Henri de l'absence soudaine et non expliquée de Louise Soubien, une jeune fille à laquelle il s'était beaucoup attaché et dont il espérait des promesses. Il avait fait sa connaissance chez nous car elle venait souvent le dimanche après-midi causer un moment avec ma femme et avec Léonie du Vaubleu, dont c'était aussi le moment de congé. Louise avait peu de plaisir, étant fort tenue par sa tutrice, Madame Le Bougre, qui faisait d'elle une servante plutôt qu'une pupille. D'après la description de ma femme, je voyais très bien cette petite blonde, aux yeux bleus et doux, assez fluette, timide, juste le type de femme qui devait plaire à mon frère, brun, ardent et chevaleresque. Une petite fleur à protéger des vents trop rudes de la vie. Lucie me disait: si tu voyais avec quels yeux elle le contemple, elle l'adore tout simplement. Et lui, il la regarde souffler. Cette idylle nous ravissait, Lucie et moi. Et chaque dimanche, nous nous attendions à des fiançailles, mais la petite semblait avoir peur d'un mot décisif, et chaque fois qu'Henri s'avançait, elle opérait un petit recul stratégique qui laissait mon pauvre frère tout penaud. Elle ne lui avait jamais permis de la ramener chez elle. À la fin de sa courte visite, elle s'esquivait en disant « Ma tante me grondera si je tarde. » Madame Le Bougre se faisait appeler « ma tante » par Louise, bien qu'elle ne fût que des cousines éloignées. Louise était orpheline et elle possédait un petit patrimoine à ce qu'elle disait, mais elle ignorait tout de ses propres affaires. Elle n'avait que 18 ans. Une espèce de conseil de famille, composé de vagues cousins qu'elle connaissait à peine, avait nommé Madame Le Bougre sa tutrice. Et cette femme, très rapace et très dure, tenait depuis 5 ans en servage la blondine aux yeux bleus. « Je paie une pension pour mon entretien », nous avait dit Louise dans un de ses moments d'expansion. « Mais je ne sais pas la somme. Ma tante prend ça sur mes coupons et elle dit toujours qu'elle y met du sien. » Quand j'aurai 21 ans, elle devra me rendre ses comptes de tutelle, ainsi que mon cousin Régimont, qui est tuteur avec elle. Moi, n'est-ce pas, je n'y comprendrai rien maintenant, que dit ma tante. C'est une femme d'affaires, ma tante Le Bougre, et son fils Michel est aussi très porté sur l'argent. Nous savions que ce fils Michel, un grand gaillard de 35 ans, assez sinistre, bon mécanicien, était parti avec un Américain, à peine fut-il démobilisé, car on lui promettait là-bas un gros salaire et des occasions de faire des affaires. « Il reviendra dans 3 ans et il sera riche, qu'il dit, et moi je serai majeur. » « Pour l'épouser ? » demandai-je brusquement. « Pour le refuser ? » prononça Louise d'un ton résolu qu'elle n'avait pas souvent. « Mais quelle scène, mon Dieu, quelle scène! Ils me tueront si je ne me sauve pas avant !» Puis elle se mit à rire. « J'exagère. Il ne me tuerait pas tout de même, mais il y aura du tirage. »« Nous sommes là !» s'écria Henri, qui n'osait pas encore dire « Je suis là !» J'entendis Louise soupirer. « Il faut avoir patience, murmura-t-elle. Ah, qu'il me tarde d'être majeure! Mais vous savez, pour m'appeler Madame le Bougre, non, il n'y a rien de fait. Ça leur va très bien, à eux, ce nom, mais à moi... Surtout, n'allez pas dire que je bavarde ainsi chez vous, ma tante me défendrait de revenir. » Un dimanche soir, l'imprévu survint. Ce fut un gros orage, avec de formidables coups de tonnerre, et puis des torrents de pluie. Louise commençait à s'affoler parce qu'elle était déjà d'un quart d'heure en retard. Henri ne lui demanda pas la permission, il ouvrit le parapluie de ma femme, offrit son bras à Louise et s'achemina avec elle. Lucie me dit que la petite craintive, sous ce parapluie et pendue au bras de mon frère, avait l'air d'un oiseau qui a trouvé son nid. Au bout d'une demi-heure, Henri revint. L'occasion était trop bonne, nous dit-il. Je suis entré dans la maison, je me suis présenté à cette terrible tante, qui d'ailleurs s'est montrée assez gracieuse au premier abord. Alors je me suis aventuré à lui demander l'autorisation de venir quelquefois prendre sa nièce le dimanche pour faire une petite promenade avec elle. Je me suis hâté d'ajouter que mes intentions étaient des plus honorables pour le bon motif, comme on dit. Elle a froncé le sourcil. Louise tremblait, j'ai pris congé. Mais je vous jure que dimanche prochain, j'irai braver la méchante bête dans sa tanière. Fais attention tout de même, lui dis-je. Mademoiselle Louise est mineure. Il lui faudra, pour se marier, l'autorisation de son conseil de famille, d'après nos habitudes françaises, car jamais elle n'aura le courage d'envoyer des sommations. Mène son affaire prudemment. Il fut entendu que le dimanche suivant, Henri irait de la gare tout droit chez Madame le Bougre, puis nous amènerait Louise pour prendre une tasse de thé chez nous. Bien que dans la province nous n'ayons guère l'habitude de goûter, ma femme, à Paris, s'était mise à cette mode et elle trouvait gentil d'offrir le thé à ses visites. Son plateau était préparé, elle avait fait une brioche la veille, nous passions le temps en jouant au domino, avec un jeu qu'on m'avait donné à la maison de rééducation et où les points sont en relief. Je comptais que les amoureux nous arriveraient vers 4 heures, car le train d'Henri le mettait en gare à 2 heures, et nous pensions que l'intervalle ne serait pas trop long pour une promenade et pour tout ce qu'ils avaient à se dire. À mon grand étonnement, ce fut vers 3 heures, mon frère tout seul qui entra. « Mon Dieu !» s'exclama Lucie. « Qu'y a-t-il, Henri ? Quelle figure vous avez ?»« Elle est partie !» murmura mon frère d'une voix étranglée. « Partie ? Louise ?» Oui, et son infernale tante m'assure qu'elle ne sait rien, ni pourquoi Louise s'est sauvée, ni l'endroit où elle s'est rendue. « Quand est-elle partie ? » demandai-je. « Lundi dernier. » « Cette Le Bougre lui aura fait une scène après ta visite de dimanche où tu as déclaré tes intentions, dis-je. La petite aura eu peur. »« C'est bien probable, mais où est-elle ? Où est-elle ? » cria mon frère. « Ne vous a-t-elle pas envoyé un mot, son adresse au moins ? Non, je vois que vous êtes aussi renversé que moi. » « Elle est peut-être chez ce cousin Régimont, qui est aussi son tuteur, dis-je. »« Heureusement que tu as bonne mémoire, fit Lucie. Moi, je n'avais pas retenu le nom du cousin. » »« Le nom ne nous sert pas à grand-chose sans l'adresse. Raconte-nous en détail ton entrevue avec Madame Le Bougre, Henri. » Ça n'a pas été long. J'ai sonné à la porte du jardin. C'est cette mégère qui m'a ouvert. Elle a l'air très respectable, à dire vrai, et on aurait cru qu'elle avait un morceau de sucre sur la langue, tant ses paroles étaient mielleuses. Mais elle ne m'a pas invité à entrer. Nous avons causé sur la porte. J'ai dit, avec votre permission, je viens voir Mademoiselle Louise. Ma nièce n'est plus ici, m'a-t-elle répondu d'une voix affligée. Comment, plus ici ? « Où est-elle ? » me suis-je écrié assez violemment. « Monsieur, je n'ai aucun compte à vous rendre, » a-t-elle fait en se reculant dans le jardin, en faisant mine de fermer la porte. « C'est vrai, madame. j'étais forcée de la ramadouer. Mais cependant, vous me feriez grand plaisir en me donnant l'adresse actuelle de Mademoiselle Soubien, car je lui écrirai dans le cas où je ne pourrais pas la voir. Vous connaissez mes intentions, madame. Vos intentions, vous me les avez dites, fit-elle, mais je ne vous connais vous-même ni d'Ève ni d'Adam. Je vous donnerai des références chez mes patrons à Paris d'abord. C'est bien inutile, mon pauvre monsieur, a-t-elle dit avec son ton le plus sucré. Louise est partie. Je ne vous cacherai pas que nous avons eu une petite discussion à votre sujet dimanche passé. Elle a pris la mouche et lundi matin, elle m'a quitté. Sans vous dire ses projets pour la suite? Sans rien me dire, je ne l'ai même pas vue quitter la maison. C'est une ingrate, je l'ai nourrie pendant 5 ans et voilà son remerciement. Après ça, monsieur, je n'ai aucun renseignement à vous donner. Je vous souhaite le bonjour. Et elle m'a fermé la porte au nez, très doucement d'ailleurs, comme elle avait parlé tout le temps. N'est-ce pas une histoire incroyable? Dis-moi ce que tu en penses, François, car moi, je perds la tête. Après avoir réfléchi, je dis à mon frère, ça ne lui ressemble guère à cette petite Louise de prendre la mouche, comme dit sa tante, ni de faire un coup de tête. Mais on l'aura poussée à bout, on l'aura menacée. Tu te souviens, Henri, de ses propres paroles? Ils me tueront si je ne me sauve pas avant. La tuer ? S'écria Henri en se levant si brusquement qu'il renversa sa chaise. Écoutez, j'y retourne de ce pas. Cette femme parlera ou je l'étranglerai. Un peu de calme, dis-je. Avant tout, ne va pas te mettre dans ton tort en faisant un esclandre. Madame Le Bougre n'a pas tué cette petite. Pourquoi faire ? Louise s'est sauvée. Nous allons nous mettre en campagne pour trouver sa trace. Ah ! Fit Lucie avec une confiance que j'étais loin de ressentir. Si François s'en mêle, je suis tranquille. Pour moi, Louise est déjà retrouvée. Henri mit la main sur mon bras et me dit avec émotion : Mon vieux, si tu fais ça pour moi, ah, vois-tu, c'est plus que la vie que je te devrais. Puis il continua : Cette petite Louise, si timide, si confiante, où va-t-elle tomber ? Elle n'a pas d'argent, elle ne connaît personne. Jamais elle ne se débrouillera toute seule. Je deviens fou de penser à tout ce qui peut lui arriver. Au contraire, tâche de garder toute ta tête, lui dis-je. Je ne vois pas la situation tellement désespérée. Louise nous écrira, nous sommes probablement ses seuls amis, ou bien elle écrira à Mademoiselle Léonie du Vaubleu. Elle lui a peut-être déjà écrit, dit ma femme. Mademoiselle Léonie nous l'aurait dit. Je cours le lui demander, fit Lucie qui se leva. Attends un peu, réfléchissons. Faut-il ébruiter la fuite de Louise si personne que nous n'en a entendu parler? Moi, j'attendrai encore quelques jours. Supposons que Louise soit à Paris, dans un patronage pour jeunes filles. On lui cherche une place. Quand elle aura cette place, elle nous enverra des nouvelles et son adresse. Comme elle n'a sans doute pas de papier, le patronage écrira à la tante ou à nous pour renseignement. De toute façon, nous saurons quelque chose avant la fin de la semaine. Tu arranges très bien tout ça, fit Henri d'un ton moitié rassuré, moitié sceptique. Mais dans l'intervalle, continuai-je, tu sais mon goût pour les enquêtes, je vais mener une petite enquête, nous sortirons bien quelques précisions. Demain, Lucie et moi, nous irons faire une visite de condoléances à Madame Le Bougre. Quelle chance que cette personne ait un nom pareil, on peut l'injurier poliment, rien qu'en la saluant par son nom. Lucie nous fit du thé. Henri but le sien sans cesser un instant de parler de Louise. Ce qu'il savait sur elle de plus que nous n'était pas grand-chose. Orpheline, une petite fortune, un caractère doux et craintif, une tante sévère qui la tenait de près, un cousin qui la considérait déjà comme lié à lui, mariage qui, sans doute, éviterait à la tutrice de rendre des comptes de tutelle. Un conseil de famille dans les nuages, bref, tout ce qu'il fallait pour la captation facile, sans résistance, de la jeune fille et de son bien. Nous leur laisserons la fortune à ces Le Bougre, déclarait Henri. Est-ce que j'ai besoin des 4 sous de Louise? C'est elle que je veux pour la rendre heureuse, pour la dédommager de tant d'années d'esclavage et de terreur. Car cette Lebougre la terrorise, il n'y avait qu'à les voir toutes deux face à face. Pauvre petit oiseau tremblant, quel nid a-t-il trouvé ? Quand mon frère nous quitta, il était, sinon rassuré, du moins plus calme. Je lui promis de lui écrire chaque jour pour le tenir au courant. J'exprimai une conviction que je ne ressentais pas entièrement au sujet de la sécurité de Louise. Il me remercia avec effusion, comme si je lui avais déjà rendu l'objet de sa tendresse. Le lendemain, à l'heure ordinaire de notre promenade, ma femme et moi, nous nous dirigeâmes vers le quartier où se trouvait la maison de Madame Lebougre. C'était l'extrémité de la ville, opposée au chemin des Courtils, but ordinaire de nos petites promenades. Nous n'allions jamais dans le quartier de la Villarde que traverser la grande route poudreuse et où les habitations, rares et clairsemées, se retiraient chacune, suivant la description de Lucie, au fond d'un grand terrain, près au jardin, que de hautes palissades en lattes serrées séparaient du trottoir. Ni ombrage, ni vue, dans cette rue de la Villarde, une sorte de vieille banlieue assez sordide. J'avais donné mes instructions à Lucie. Nous irons d'abord jusqu'au bout du quartier, là où la rue finit dans des hangars et des champs. Tu regarderas bien, en passant, la maison Lebougre, tu me la décriras, puis nous reviendrons sur nos pas, comme si nous étions allés trop loin par inadvertance, et nous ferons notre visite. Henri nous avait expliqué un peu la topographie de l'endroit. La maison de Madame Lebougre était la cinquième à gauche, à partir d'une certaine fontaine publique avec deux grands bassins. « Passons sur le trottoir à droite, » dis-je à Lucie. « Cela te permettra de voir mieux par-dessus la palissade. Surtout, n'aie pas trop l'air d'examiner l'endroit. Madame Lebougre peut être à sa fenêtre. » Lucie, très attentive, comptait les maisons. Nous marchions lentement. « Après la cinquième maison, » me dit Lucie, « il y a un grand espace vide, la place de trois ou quatre maisons au moins. Compte les pas. » Je comptais 225 pas. La maison est assez éloignée de ses voisines de ce côté, dis-je. Et de l'autre ? De l'autre également, autant que je puis voir à cette distance. Mais la maison est le même, la vois-tu ? Très bien, car le terrain monte un peu depuis la palissade. Je vois une façade assez longue, la porte au milieu, avec un petit perron, deux fenêtres de chaque côté. Un seul étage sur le rez-de-chaussée, quatre fenêtres. Quatre, dis-je, il devrait y en avoir cinq. Une fenêtre au-dessus de la porte et deux de chaque côté. Il n'y a pas de fenêtre au-dessus de la porte. C'est une de ces vieilles maisons qui n'ont pas de symétrie. Les fenêtres ne sont pas exactement les unes au-dessus des autres et pas de la même grandeur. Et le côté ouest de la maison ? Celui que tu as dû voir en venant. Ce côté a deux fenêtres au premier, une seule au rez-de-chaussée. La maison est donc plus longue que profonde. Le double, je pense, c'est la maison de province qui n'a en général qu'une chambre en profondeur, toutes les chambres de l'étage ayant une fenêtre sur chaque façade. Quand nous aurons dépassé la maison, ne te retourne pas, dis-je ensuite à Lucie. Nous reviendrons sur nos pas et tu pourras alors me décrire le côté est, puisque tu l'auras en face de toi. Toute cette étude n'est guère utile pour nous donner l'adresse de Louise à Paris ou ailleurs, mais tu sais que j'aime à me rendre compte des lieux et à comprendre la disposition d'une maison où je vais entrer. Cela me permet d'être moins gauche, d'avoir l'air moins aveugle. Tu me comprends, Lucie ? Étant parvenus au bout de la Villarde, nous fîmes halte une minute, Lucie regardant autour d'elle comme une personne qui ne trouve pas ce qu'elle cherche. J'entendis tout à coup une voix sortant du vide à notre droite. « Monsieur dame, vous cherchez quelqu'un ?»« C'est un bonhomme dans son champ de pommes de terre, » me souffla Lucie. « Il nous a vus venir. »« Nous cherchons la maison de Madame Lebougre, » dis-je en me tournant vers la voix. Ben, vous avez perdu au moins 5 minutes, fit la voix en s'approchant si près que j'eus son souffle et son relent de pipe presque sous le nez. De la main, je frôlai la barrière basse qui séparait le champ de la chaussée. Mame Lebougre, Vous avez passé devant sans le savoir. Je vas vous y mettre. Je vous connais, monsieur le camp. Tout le monde vous connaît dans le bourg, vous et votre dame. Moi, j'ai un fils qui a fait la guerre comme vous, mais il s'en est tiré avec tous ses abattis. » « Si ça ne vous dérange pas, dis-je, en tendant son pas qui se rangeait à côté du mien, ma femme est fatiguée et nous sommes déjà venus trop loin. » « Dans 5 minutes, vous y serez, » fit ce guide obligeant. « Vous voyez, madame, le trottoir est assez large pour 3. Je prendrai le bord. C'est pas pour dire, mais madame le bougre a pas souvent des visites, » poursuivit-il, se révélant curieux. « C'est une dame qui se tient beaucoup chez elle. » « Moi, j'y cause tous les jours, mais je suis peut-être le seul. J'y cause parce que j'y porte son lait. J'ai une bonne vache bien nourrie, qui me donne dans les 7-8 litres de lait par jour. C'est trop pour ma bourgeoise. Alors j'ai pris 2 pratiques dans le quartier, madame le bougre et puis un voisin. » « Comme cela, dis-je, vous devez connaître aussi la nièce de madame le bougre, mademoiselle Louise Soubien. » « Je la connais sans la connaître, comme on dit. On ne la voit pas beaucoup. Sa tante ne la lâche pas souvent. Elle vous est peut-être de parente ?»« Non, répondis-je, mais elle vient nous voir de temps en temps le dimanche. Mademoiselle Léonie, qui est femme de chambre au Vaubleu, est son amie et nous a amené mademoiselle Louise. » Je parlais ainsi pour inspirer confiance au bonhomme et l'engager à continuer la conversation. Je repris. C'est plutôt à mademoiselle Louise qu'à sa tante que nous allons faire visite. Nous ne l'avons pas vue depuis quelque temps et nous craignons qu'elle ne soit malade. Si même elle était malade, je crains bien que je le saurais, dit le bonhomme. Mame le bougre m'aurait envoyé au docteur et à la pharmacie. C'est moi que je lui fais ses commissions en ville l'après-midi. Comme vous me voyez, je suis homme de peine à demi-journée chez monsieur Lebeau, l'épicier, la même que vous vous servez. « Ah bon, dit Lucie, je suis bien contente de faire votre connaissance. On peut avoir besoin d'un coup de main quelquefois. Vous avez du temps libre ?»« Oui, dès que j'ai soigné la vache et porté le lait, je travaille à l'heure chez les gens ou bien je bricole dans mon champ. Vous n'aurez qu'un mot à dire, Prosper Machon. » Nous voici devant le jardin de Mame le Bougre. Des fois que la petite porte serait ouverte... « Oui, elle est ouverte. J'irai bien avec vous jusqu'à la maison. » Sans doute s'intéressait-il à la réception que nous allions trouver. Lucie me dit « Depuis la petite porte dans la palissade où il y a une sonnette, tu te souviens qu'Henri nous a dit qu'il a sonné dimanche à la porte du jardin ? Nous avons une allée droite jusqu'au perron. Nous passons entre des planches de jardin très bien garnies de beaux légumes. » « Mademoiselle Louise, elle travaille beaucoup au potager, » dit Prosper. Nous montions la première marche du perron quand j'entendis une lourde porte s'ouvrir devant nous avec un grincement de gonds. « Eh bon !» fit Prosper s'adressant à moi. « Vous voilà rendu à destination. C'est madame le bougre elle-même qui est là sur son seuil. Mame le bougre, je vous amène des visites qui s'étaient, comme pour dire, égarées au bout de la villarde. » « Je vous quitte, monsieur dame. À propos, madame le bougre, mademoiselle Louise serait pas malade, des fois ?»« Non, elle n'est pas malade, mais encore elle le serait, » fit une voix très acide. « Vous n'êtes pas médecin, hein, que je sache ?»« Ah, bougre, non. Excusez, mame le bougre, c'est par erreur que je dis votre nom comme ça. Non, je suis pas médecin, je suis laitier. C'est toujours bien 3 litres qu'il vous faut demain ?» « Comme à l'ordinaire. Monsieur et madame, » fit la voix aigre, « qu'est-ce qu'il y aurait pour votre service ? Vous, Prosper, vous n'avez pas tout dit ?»« J'ai tout dit, mame le bougre. Je me cavale. C'est sans adieu, au revoir. »« Merci pour votre obligeance, monsieur Machon, » dit Lucie. « De rien du tout, je me trotte. » J'entendis son pas hésiter dans l'allée. On aurait cru que ce brave homme craignait de nous laisser seuls dans un antre dangereux. Je supposais que madame le bougre nous regardait d'un air interrogateur et malveillant, car Lucie parla avec quelque agitation. « Nous vous dérangeons peut-être, madame. Nous sommes venus prendre des nouvelles de mademoiselle Louise. Savez-vous maintenant où elle se trouve ?»« Vous avez dit à mon frère, madame, » fis-je à mon tour, « que mademoiselle Louise vous a quitté il y a une semaine. » mais elle vous a sans doute écrit depuis lors. »
« Elle ne m'a pas écrit !» répondit cette voix qui aurait fait tourner du lait.
« Vous ignorez absolument où elle s'est dirigée ?»«
Je n'ai aucun compte à vous rendre. Ma nièce ne vous est rien. Je ne vous connais pas. »
Ces petites phrases furent prononcées d'une manière tranchante, mais la voix me parut mal assurée. « Mademoiselle Louise est notre amie, et, comme vous le savez, mon frère espère l'épouser, » repris-je.
« Vraiment ? Eh bien, qu'il la cherche et qu'il la trouve !»
Nous nous étions avancés sur le perron, Lucie et moi. Je tâtais du pied pour sentir le seuil, et tout à coup, je fis un pas, j'étais dans l'entrée, et Madame Le Bougre ne pouvait plus fermer la porte, même si elle essayait de m'écraser. Vous nous permettrez bien d'entrer et de nous reposer une minute, fis-je avec une effronterie dont Lucie dut s'étonner. Ma femme est fatiguée, nous avons cherché votre maison beaucoup trop loin.
La maison n'est pas en ordre, je ne suis pas préparée à recevoir des visites, dit la voix rêche, plus rêche que jamais. Il y a un banc là-bas sous le pommier, vous pouvez vous y asseoir.
Ôtez-vous de là, voyons, je suis dans mes nettoyages, vous me faites perdre mon temps. Encore une minute, madame, insistai-je. Nous avons fait une longue course pour avoir un renseignement. Mais puisque vous ne savez rien de mademoiselle Louise, veuillez nous donner l'adresse de son tuteur, monsieur Régimont. Mademoiselle Louise s'est peut-être rendue chez lui, ou du moins l'a informée de son départ.
Vous vous trompez, monsieur Régimont ne sait rien du tout, fit madame Le Bougre assez imprudemment.
Je me hâtai de saisir ce bout du fil.
« Comment savez-vous qu'il ne sait rien ? » demandai-je. « Vous lui avez écrit ?»«
Ah, j'en ai assez de vos questions !» s'écria-t-elle. Et tout à coup, des deux mains, elle me poussa hors du seuil. Comme je ne m'attendais pas à cet assaut, je fis involontairement un pas en arrière. Mon pied n'était plus dans la place, la lourde porte claqua, Lucie poussa un cri.
« Tu aurais pu avoir la main pincée, » fit-elle, « et ma robe est prise dans la fente. »
« Peux-tu la retirer ?»«
Elle a déchiré ? Ah, mais non, il faudra bien qu'on rouvre la porte. »« Madame Le Bougre ! Madame Le Bougre » appela-t-elle en appuyant tellement sur ce nom malencontreux que je ne pus m'empêcher de rire. Pour faire ma part, je me mis à tambouriner dans la porte avec mes poings. On entendit du bruit à l'intérieur de la maison, des pas revinrent, sonnant sur le passage carrelé.
« Vous n'êtes pas parti ?» grommela l'aimable dame.
Ma robe est pincée dans la porte, dit Lucie exaspérée.
Ah, tant pis pour vous.
Et les pas s'éloignèrent de nouveau. Du renfort nous vint de l'autre côté. Prosper Machon était sans doute resté aux écoutes derrière la palissade. Entendant nos appels et le tapage de mes coups, il arrivait dard-dard par l'allée du jardin.
Quoi qu'il y a, fit-il essoufflé, montant le perron.
Vous voyez bien, dit Lucie d'une voix qui tremblait d'émotion et d'impatience. Ma robe est prise dans la porte, nous voudrions bien nous en aller, mais nous ne le pouvons pas.
Rendez-nous un service, monsieur Machon, dis-je d'une voix très haute. Allez nous chercher un serrurier, puisque madame Le Bougre ne nous entend pas.
Un serrurier ? Ah bien non, protesta une voix très proche. Si vous croyez que je vais laisser démolir ma serrure.
La police, alors, criai-je, vous n'avez pas le droit de retenir ma femme pincée dans votre porte.
Le mot de police produisit son effet. Je sentis sous mes paumes appuyées le lourd battant s'ouvrir imperceptiblement.
Tirez donc votre robe, donc, et fichez-moi la paix, hurla la mégère.
Pauvre Louise, elle avait passé 5 ans dans cette compagnie.
Lentement, très songeurs, nous descendîmes du perron, nous traversâmes le jardin. De l'autre côté de la palissade, sur le trottoir, Prosper Machon chuchota.
« Pas commode, la bourgeoise. Avez-vous vu mademoiselle Louise ?»«
Non, et c'est précisément ce qui nous inquiète, dis-je, incertain en moi-même, s'il convenait de prendre le brave homme dans notre confidence. Nous avons des raisons de penser qu'elle s'est sauvée. »
« Ah, ça se pourrait bien, ça se pourrait bien. Pour heureuse, elle n'était pas heureuse, allez. Et ce gros Le Bougre l'a serré de près avant qu'il soit parti pour l'Amérique. Je l'ai dit souvent fois à ma femme, ça devrait pas être pour un braque comme le bougre, ce brin de fillette. C'est doux et c'est fin comme de la soie. On dit qu'elle a une jolie dot. Alors c'est le bougre, n'est-ce pas? Il s'acharne après elle. Elle a bien fait de se sauver. » Dans le cas où vous apprendriez quelque chose à son sujet, dis-je, vous nous obligeriez beaucoup, monsieur Machon, en nous en informant. Entendu, vous pouvez y compter. À vous revoir, monsieur dame. Quand nous fûmes rentrés, Lucie me dit : Savez-vous, monsieur le Songe-Creux, que vous n'avez pas prononcé une parole depuis une demi-heure ? C'est que je rumine deux ou trois détails de notre aventure. Notre rencontre avec Machon a été fort heureuse. Dans le peu de mots qu'il a échangés avec la terrible tante, je crois avoir trouvé une indication. Je peux me tromper. Chère femme, fais-moi une tasse de café bien fort, j'allumerai ma pipe. Entre l'excitant et le calmant, je serai dans le bon équilibre pour réfléchir. Plus tard, après notre modeste dîner, nous étions assis bien tranquilles en face de... Plus tard, après notre modeste dîner, nous étions assis bien tranquilles en face l'un de l'autre et j'entendais le petit craquement de l'aiguille de Lucie qui piquait l'étoffe. J'étais partagé entre le désir de présenter mes hypothèses à Lucie pour qu'elle m'aidât à les élucider et le désir contraire, plus conforme à ma petite vanité, de la laisser dans l'obscurité jusqu'à la minute où je ferais éclater le dénouement. « Demain, dans la matinée, dis-je pour tâter le terrain, nous irons faire une emplette à l'épicerie Le Beau et nous tâcherons de voir Machon. Il aura certainement parlé de notre visite à sa femme et celle-ci, comme toutes les femmes, aura remarqué des détails qui ont échappé à son mari. Louise lui a peut-être parlé avant son départ. « Ce n'est guère probable, voyons, objecta Lucie. Elle l'aurait dit à son mari. » Il suffit de si peu de choses, d'une si petite lueur quelquefois, pour éclairer un coin noir. Tu n'as rien remarqué, toi, d'anormal, dans ce que tu as vu et entendu cet après-midi ? Mais si, tout était anormal, l'humeur de Madame Le Bougre, sa façon de nous tenir à la porte. Sous prétexte de nettoyage, dans quel costume était-elle ? Costume de nettoyage ? Tu m'y fais penser. Non, elle était en robe d'alpaga noir, un col blanc, un petit tablier de basin blanc, comme on en met pour coudre du linge. Cette description, tu aurais dû me la faire plus tôt, car elle prouve que les nettoyages étaient un prétexte pour nous interdire l'entrée. Et, tu sais, dans cette petite ville, tu ne trouveras pas beaucoup de gens pour jeter la porte au nez d'un aveugle de guerre et de sa femme. Madame Le Bougre a de fortes raisons pour ne pas souhaiter qu'on entre chez elle. « Quelle raison ?» demanda Lucie, qui aimait assez les solutions toutes faites. Les mêmes raisons, dis-je en me décidant, les mêmes raisons pour lesquelles cette femme que Louise disait avare prend à Machon 3 litres de lait par jour, comme d'ordinaire a-t-elle ajouté, donc comme avant le départ de Louise. « 3 litres de lait ?» répéta Lucie pensivement. « C'est beaucoup pour une seule personne. » « Parfaitement. Tu riras si tu veux, Lucie, mais ces 3 litres de lait sont le pivot de mon raisonnement et tous les autres faits se groupent autour. À l'instant où j'ai entendu Machon dire « C'est bien 3 litres qu'il vous faut demain » et que Madame Le Bougre a répondu, comme à l'ordinaire, je me suis dit « Louise n'est pas partie, elle est dans la maison. On ne la voit plus depuis une semaine, donc elle est malade ou enfermée. » Si elle était malade, sa tante ne ferait pas tant de façons pour le dire. Elle n'aurait aucun motif de le cacher. La seconde alternative doit être la vraie. Louise est enfermée, séquestrée par sa tante. Mais dans quel but, bon Dieu ? S'écria Lucie. Pour la séparer d'Henri, évidemment, et pour la contraindre par la peur, par les menaces, à épouser le fils Le Bougre, qui a peut-être quitté les États-Unis à l'heure qu'il est, et qui va rentrer sur un avis de la mère. Tout cela est possible, mais j'avoue que ça me paraît bien romanesque, dit Lucie. Le roman, dis-je, se réduit sans doute à une question d'intérêt. La tutrice a-t-elle mal administré la petite fortune de Louise ? Redoute-t-elle le moment où elle devra rendre ses comptes ? L'autre tuteur, ce Régimont, n'a l'air au courant de rien. Il ne donne pas signe de vie. Je reconnais, Lucie, que mon hypothèse ne repose que sur 3 litres de lait. Toi, ma femme, comment expliques-tu ces 3 litres de lait avec la remarque en plus, comme d'ordinaire ?
Cela pourrait s'expliquer de bien des façons, François. Madame Le Bougre se nourrit peut-être de crèmes et de bouillies depuis le départ de Louise. Ou bien elle a des chats.
Si elle en a, elle les avait déjà la semaine passée.
Elle engraisse peut-être un porc.
Cela, Machon nous le dira. Oui, ma bonne Lucie, je reconnais que mes suppositions ont pour base des faits qui peuvent s'expliquer très naturellement. Primo, Madame Le Bougre peut consommer 3 litres de lait à elle seule. Secondo, sans avoir rien à cacher, elle n'aime pas qu'on entre chez elle par simple mauvais caractère. Mais...
Je restai à réfléchir encore quelques minutes, puis je repris.
Mais admets qu'il est plus naturel de supposer que Louise boit sa part de lait et que c'est sa présence dans la maison qui rend sa geôlière si vigilante et si hargneuse.
Il n'est pas facile de séquestrer une personne qui se défend. Où ? Dans la cave, dans le grenier ? Questionna Lucie.
Si Louise est prisonnière quelque part, c'est dans un réduit sans fenêtre, dis-je, car une fenêtre laisserait passer des appels, des cris. La maison Le Bougre est isolée à droite et à gauche, mais elle n'est pas très éloignée de la route. J'ai compté 60 pas de la petite porte de la palissade jusqu'au perron. Si Louise criait au secours, les passants l'entendraient. Supposons qu'elle ait reconnu nos voix sur le perron. Comment n'a-t-elle pas révélé sa présence en faisant du bruit ? La maison a-t-elle des soupiraux de cave sur le devant ? Des lucarnes sur le toit du côté du perron ?
Vraiment, je n'ai pas remarqué, dit Lucie.
Ah, que neige mes yeux, soupirai-je. J'aurais vu tout ça d'un coup d'œil. Je me rendrai compte.
Cependant, Lucie, tu m'as fourni un détail précis quand tu m'as décrit la maison dans notre premier trajet.
Tu m'as dit que la façade n'a que 4 fenêtres au premier, au lieu d'en avoir 5, c'est-à-dire 2 de chaque côté et 1 au-dessus de la porte.
Quelle conclusion en tirerais-tu ?
Aucune, déclara Lucie, qui commençait à être fatiguée.
Moi, au contraire, j'en conclus qu'une des chambres du premier, soit à droite, soit à gauche, se prolonge en une alcôve sans fenêtre ou en un très grand cagnard qui occupe l'espace au-dessus de la porte. Je vois ça très bien. Mais je me trompe peut-être du tout au tout. Allons dormir là-dessus.
Je dormis très mal. Dans ma tête, les 3 litres de lait dansaient une sarabande et je m'efforçais de les répartir dans une chambre, une alcôve et un cagnard qui changeaient de place continuellement. Je me levais, peu dispos, ennuyé. Je me traitais d'imbécile pour avoir échafaudé tout un système sur 3 litres de lait. Je pensais à Henri qui comptait naïvement sur moi pour lui retrouver sa Louise. J'étais sur le point de lui écrire « Adresse-toi à la préfecture de police ». Mais en ce moment, Lucie me rappela que nous devions passer à l'épicerie Le Beau et tâcher d'y voir Prosper Machon.
« C'est bien inutile, fis-je sous la mauvaise impression de ma nuit. Que veux-tu que Machon nous apprenne ?»«
Je ne sais pas, moi, dit Lucie. Mais vois-tu, j'ai rêvé de Louise toute la nuit. Nous n'allons pas l'abandonner chez cette méchante femme. »
Tu crois donc qu'elle n'est pas partie, fis-je un peu encouragée. C'est que mon enquête, vois-tu, ne tient pas sur grand-chose. Elle tient sur 3 litres de lait.
Moi, je comprends ça autrement, reprit ma femme. Si Louise était libre, elle nous aurait écrit, elle ne nous laisserait pas, Henri et nous, si longtemps dans l'inquiétude. Comme elle n'écrit pas, c'est qu'elle est retenue ou enfermée quelque part. Voyons, François, creuse-toi un peu la tête. « Retrouver Louise, c'est pourtant plus important que de retrouver une bague ou un chien. » Nous allâmes donc à l'épicerie Le Beau et Lucie s'arrangea à faire plus de petites emplettes qui n'en pouvaient tenir dans notre filet.
« Laissez tout ça, dit l'épicier, Machon vous portera vos paquets. Il est libre en ce moment. »
Nous ne pouvions pas désirer mieux puisque 10 minutes plus tard, Machon était chez nous et Lucie le priait de s'asseoir et de se rafraîchir avec un verre de cidre.
« Monsieur Machon, lui dis-je, car je venais de tirer une sorte de plan du désordre de mes idées, vous n'avez pas entendu dire, par hasard, que Madame Le Bougre ait l'intention de vendre sa maison ?
Ma foi, non, dit Machon, mais ça se pourrait. Elle dit souvent que le jardin potager et le verger sont trop grands pour une femme seule. Ça serait-il que vous penseriez à acheter ?